Marie-Ève au micro pour mener la barque de cette édition, toujours en compagnie de Mathieu au piton pour le moment. Et oui, il est...
Je vais dire salut
oui,
à sa
place. Oui, oui, je suis dans les studios.
Sur le piton et en studio avec Simon pour les premiers segments. Vous allez bien?
Très bien, toi-même.
Oui, merci Marie-Ève.
Les Apatrides Anonymes, c'est en quelque sorte votre power trio informationnel et analytique sur toutes les actualités nationales et internationales qui touchent à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers, aux enjeux autochtones, etc. Et aujourd'hui, ben, on va se faire quelques passes sur la palette en commençant par une victoire en Union européenne pour les demandeuses d'asile. Simon va ensuite enchaîner avec les actualités européennes. Tu parles de quel pays déjà, Simon?
Dépendamment du temps que j'aurai, parce que des fois je m'épanche un peu, là, mais Espagne, Allemagne, Belgique, France, ça devrait être pas mal. Italie aussi.
Vaste programme.
Ouais, ben on fait le continent au complet.
On va aussi parler d'exportation d'armes vers Israël et Mathieu va nous amener au Myanmar et au Cambodge.
Oh, certainement, il se passe des choses là.
On va aussi faire un tour des actualités autochtones ici et aux États-Unis, voir ce qui se passe du côté de cette saleté d'extrême droite canadienne et aborder certaines questions en lien avec l'immigration ici. Et comme on est toujours dans le mois de l'histoire des Noirs, je vais vous proposer une sélection d'événements à ne pas manquer dans la programmation. Alors, c'est parti! Le mot « victoire » était peut-être un peu fort en introduction de l'émission, mais on peut à tout le moins parler d'une grande avancée pour les demandeuses d'asile dans l'Union européenne. C'est que, pour la première fois dans son histoire, la Cour de justice européenne reconnaît les violences de genre comme un motif de protection internationale. Les femmes sont donc maintenant considérées dans leur ensemble comme un groupe social au sens de la Convention de Genève, qui définit les contours du statut de réfugié. Pour rappel, la Convention de Genève définit comme réfugiée toute personne qui a fui son pays parce qu'elle craint, je cite, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, cette notion-là de groupe social était floue et c'était la jurisprudence de chaque pays membre de l'Union européenne qui définissait les groupes sociaux qui pouvaient potentiellement avoir droit à une protection. Conséquence, ben sur le terrain, plusieurs femmes avaient du mal à faire reconnaître les violences qu'elles subissent liées à leur genre. Et donc, à chaque fois, il fallait prouver qu'on appartient, en plus d'être une femme, à un groupe social spécifique défini par la jurisprudence, comme par exemple victime de la traite d'êtres humains, un risque d'excision, risque de persécution, du fait de l'orientation sexuelle ou des choses comme ça. À l'origine de la décision de la Cour de justice européenne, c'est une ressortissante turque d'origine kurde de confession musulmane, mariée de force à l'âge de 16 ans. Celle-ci raconte avoir subi des violences conjugales. Elle parvient à divorcer et fuit immédiatement le pays par crainte, je cite, que sa famille ne la tue si elle retourne en Turquie. Donc, direction la Bulgarie, où elle arrive en 2018 et dépose une demande de protection internationale. Le juge bulgare a alors saisi de l'affaire, a décidé à ce moment-là de se tourner vers la Cour de justice pour clarifier certains points. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à la décision de la Cour de justice qui vient dire que ces femmes-là peuvent maintenant prétendre à l'octroi du statut de réfugié, même en l'absence d'une persécution plus spécifique. C'est un pas vraiment important dans la reconnaissance du caractère structurel des violences faites aux femmes. Et ultimement, ben l'objectif, c'est aussi d'harmoniser les protections accordées au niveau européen aux femmes victimes de persécution parce qu'elles sont des femmes. Là, reste à savoir, là encore, si les États membres vont appliquer cette décision-là qui est supposée être contraignante. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que même si les autorités de l'asile mettent du temps à s'adapter, ben les femmes vont pouvoir s'appuyer sur cette jurisprudence-là en cas de recours. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il n'y en a pas souvent, alors on va la prendre. Et je me tourne vers Simon, donc, pour le d'autres actualités européennes.
Oui, puis c'est intéressant ce que tu parlais. Je n'avais pas trop entendu parler de ça, mais effectivement, puis c'est une jurisprudence qui va en créer d'autres, tu sais, comme tu disais, au fur et à mesure que les
exactement.
Gens vont
c'est dans la pratique qu'on va le voir.
Exactement.
C'est ça.
Donc, je commence avec l'Espagne. Donc, tout d'abord, un jeune homme d'origine camerounaise de 25 ans, nommé Ludovic N. dans les médias. Le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains porte officiellement plainte en son nom au Comité des Nations Unies contre la torture pour un pushback meurtrier auquel le jeune Ludovic a survécu, qui avait eu lieu en février 2014, proche de la côte de l'enclave espagnole de Ceuta, au Maroc. Alors que les exilés nageaient en direction de la plage, la garde civile espagnole avait tiré des gaz lacrymogènes et des balles de caoutchouc en leur direction, déchirant les bouées de sauvetage, les gilets de sauvetage, causant confusion, panique, blessure, tuant au moins 15 personnes, tous des migrants subsahariens. Les autorités espagnoles avaient ensuite affirmé que les migrants lançaient des pierres contre les agents, comme si on allait gober que du monde en train de nager en pleine mer avait des pierres à portée de main. L'affaire a été classée, réouverte à quelques reprises pour que la Cour suprême espagnole ferme définitivement le dossier en 2022 sans que jamais Ludovic N. ne soit entendu alors qu'il était témoin privilégié. J'ai pas de date pour les audiences devant le Comité des Nations Unies contre la torture, mais on va suivre ça pour vous. D'après moi, il y a des chances qu'il soit finalement entendu.
Ben oui.
Ce même tribunal suprême espagnol, dans un autre dossier lié à l'enclave de Ceuta, a récemment servi une petite baffe au gouvernement de Madrid en jugeant que l'expulsion de plusieurs dizaines de mineurs marocains, surtout en mai 2021, était illégale, puisqu'il s'agissait d'une expulsion de masse sans que les demandes de chaque individu ne soient examinées séparément. On le sait, ce qui constitue un non-respect absolu des lois espagnoles, européennes et du droit international.
Ouais.
Donc, on n'apprend rien de nouveau ici sur l'aspect illégal des expulsions de masse. Sauf que selon plusieurs ONG, ça pourrait enfin créer une jurisprudence solide, au moins au niveau espagnol, puisque la décision provient, je le disais, du plus haut tribunal du pays. Et c'est une première en soi et que tous les recours sont épuisés. Donc, il n'y a pas moyen de renverser cette décision-là, ce qui va peut-être calmer les ardeurs de la garde nationale ou sinon, ils vont trouver d'autres moyens de... Enfin. Espagne toujours, depuis lundi dernier, des visas de transit aéroportuaire, des TAP, sont exigés aux migrants sénégalais pour transiter par les aéroports espagnols, ce qui en soit un visa pour faire escale, ça surprend un peu.
Ben oui.
C'est une décision qui a été prise puisque surtout à l'aéroport de Madrid, il y a des centaines de migrants, principalement du Maroc, de la Somalie, du Venezuela et de la Colombie, mais surtout du Sénégal, qui demandent l'asile une fois qu'ils débarquent de l'avion. Début février, on comptait, toutes origines confondues, 600 migrants à l'aéroport de Madrid seulement, qui s'entassent dans des salles trop petites et pas équipées. Donc, plusieurs personnes dorment sur des cartons un peu partout dans les terminaux, dans les corridors, dans la zone de récupération des bagages, dans des conditions insalubres, évidemment. Ça crée de la tension avec le personnel de l'aéroport et entre les migrants eux-mêmes, parce que c'est une situation qui est très difficile.
Oh, c'est tendu aussi, ça doit être...
Ça doit être très tendu, effectivement. Donc, en janvier, il y avait eu 864 demandes d'asile qui ont été déposées à l'aéroport de Madrid. C'est plus que durant toute l'année 2022. Les migrants ne peuvent pas quitter la zone internationale des terminaux tant que leur demande d'asile n'a pas été traitée, ce qui peut prendre plusieurs jours. Et une fois traités, en cas de réponse négative, on les laisse poireauter encore davantage dans les zones sécurisées jusqu'au vol d'expulsion qui peut avoir lieu plusieurs jours plus tard. Bref, situation inhumaine et un peu absurde dans les aéroports espagnols. Et l'Espagne cherche à étendre la mesure, les TAP, à d'autres pays, dont le Maroc, avec qui elle négocie actuellement. Mesure qui sera aussi coûteuse en argent public que facile à contourner, parce qu'il suffira d'acheter son billet, changer le VPN de ton laptop ou de ton cellulaire pour faire comme si t'achetais un billet d'un autre pays que le Sénégal ou le Maroc.
Exact.
Je donne des petits trucs comme ça. On passe maintenant à l'Italie, qui dans les derniers mois était en pourparlers avec l'Albanie au sujet d'un accord bilatéral qui fera en sorte que les migrants interceptés dans les eaux italiennes seront hébergés dans des centres d'accueil en Albanie. Une estimation de 36 000 migrants chaque année pourrait s'y retrouver, selon notre préférée, Mme Meloni. Donc, feu vert de la part des deux parlements à Rome et aujourd'hui même à Tirana. La construction des deux centres d'accueil devrait commencer sous peu. Ce qui fait dire à Matteo de Bellis, chercheur à Amnesty International, que la ratification de cet accord est une honte. Je vais le paraphraser, une longue paraphrase. Prolonger le périple des migrants pendant des jours sur les bateaux durant leur transfert vers l'Albanie constitue une distorsion dangereuse des règles de sauvetage qui risquent de mettre en vie...
mettre en danger.
Mettre des vies en péril et toucheraient des personnes en situation déjà vulnérable du fait des circonstances de leur déplacement, au terme duquel elles seraient automatiquement placées en détention sans pouvoir sortir des centres pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 mois. En vertu du droit international, la détention automatique est par nature arbitraire et par conséquent illégale, ce qui ouvre un chapitre peu glorieux pour l'Italie. Donc, rapport complet sur l'accord Italie-Albanie sur amnesty.org, c'est en anglais seulement. Un peu de géographie pour illustrer par rapport à l'Italie. L'Albanie est située de l'autre côté de la mer Adriatique, dans les Balkans. À son point le plus proche, elle se trouve à une centaine de kilomètres face à la pointe sud de l'Italie, là, comme le talon de la botte. Par contre, on prévoit la détention automatique de tous les migrants interceptés n'importe où dans les eaux italiennes.
Okay.
Donc, en des points qui peuvent être à des milliers de kilomètres des côtes albanaises, par exemple proche de Lampedusa, à côté de la Tunisie, ou encore plus loin à l'ouest de la Sardaigne et de la Corse, en plein milieu de la Méditerranée, entre l'Algérie et la France. Je ne sais pas combien de temps en bateau ça prend pour, mettons, de l'ouest de la côte ouest de la Sardaigne jusqu'en Albanie, mais c'est peut-être une semaine. Là,
ouais.
Je poursuis maintenant les brèves européennes en Belgique. Je vous parle de Fedacil, qui n'est pas un médicament. C'est l'agence publique en charge du logement temporaire des migrants, qui a été condamnée plus de 8800 fois par la justice pour un total de 3 millions d'euros pour ne pas avoir hébergé des demandeurs d'asile. Coup de théâtre, comme Fedacil n'a jamais versé un seul centime des amendes qui lui étaient imposées, l'agence est maintenant condamnée à verser la totalité de cette somme à une dizaine d'associations, dont Médecins du Monde et d'autres moins connues, plus locales. Évidemment, la Fedacil porte la décision en appel, mais les associations... Ben oui, ben ils gagneront probablement pas. Les associations, dont Médecins du Monde, sont motivées à se rendre jusqu'au tribunal européen, s'il le faut, et espèrent pouvoir, avec les 3 millions d'euros, pallier là où l'État fait défaut, donc acheter des sacs de couchage, participer aux frais de distribution de repas, réserver des blocs de nuit d'hôtel pour les 3000 migrants qui dorment sur les trottoirs des grandes villes belges. Donc, victoire des associations et claque derrière la tête du gouvernement belge. Je ne sais pas si ça brûle les cartes et en même temps, ça déresponsabilise l'État pour transférer... tu sais, on verra qu'est-ce que ça donne, mais les associations seront quand même contentes de la décision, là. Autre nouvelle positive, en Allemagne, cette fois, grosse réforme de l'immigration avec beaucoup d'éléments négatifs. On en a parlé dans les précédentes émissions. Mais je me concentre sur les avancées qui viennent d'être adoptées puis qui, en gros, assouplissent les règles de naturalisation et élargissent l'accès à la double nationalité. Par exemple, on pourra demander un passeport allemand au bout de 5 ans de résidence contre 8 ans auparavant. Si on est exceptionnellement bien intégré... j'imagine que ça veut dire qu'on occupe un emploi clé dans un domaine en pénurie de main-d'œuvre. Le délai passe à 3 ans. Les enfants nés en Allemagne obtiennent maintenant la citoyenneté si l'un des parents a vécu légalement en Allemagne pendant 5 ans, c'était auparavant 8 ans. C'est des petites avancées. On les salue. Autre élément, on peut maintenant demander la citoyenneté allemande en conservant sa nationalité d'origine, peu importe de quel pays on vient, alors qu'autrefois, la double citoyenneté était réservée aux ressortissants de l'Union européenne et de quelques autres pays.
Oui, c'est vrai.
Évidemment, si le pays d'origine interdit la double citoyenneté, la personne devra choisir si elle renonce à sa citoyenneté d'origine pour faire une demande de citoyenneté allemande. Avancée aussi pour les Gastarbeiter, les travailleurs arrivés de l'étranger dans les années 50-60 pour reconstruire l'Allemagne d'après-guerre.
Ah ouais.
Beaucoup n'ont toujours pas la citoyenneté.
Sérieux?
On les soumettait à toutes sortes de conditions pour déposer une demande. Maintenant, pratiquement toutes les exigences sont levées pour cette catégorie de la population. Donc, il était
un peu tard, oui.
À peu près temps. Dernier élément, les personnes condamnées pour des actes antisémites ou racistes ne pourront pas obtenir la nationalité allemande, ce qui nous semble logique, mais sachant la définition très, très large de l'antisémitisme en Allemagne, avec le contexte actuel, je ne sais pas pour qui simplement appuie le peuple.
Ben, c'est ça, des militants de BDS, par exemple, tu sais, pourraient
possiblement... C'est ça, il y a des chances que cette mesure-là puisse être instrumentalisée. Je termine, je donne un lien rapidement. En France, une nouvelle association qui s'appelle Bouge ta Préf, Préf pour Préfecture, une nouvelle association qui défend des migrants de la région parisienne par rapport aux décisions arbitraires et souvent injustifiées des préfectures.
Ouais, cool,
voilà.
Super, merci Simon, ce fut un expéditif et bonne tournée de l'Union européenne. On s'en va en musique et je vous dis ce que c'est au retour. Mamba, don't mind Tirikoto, don't chikata salawo, don't butuzandi katadia, don't awashisazo, don't bariya yalwanga, On vient d'écouter le groupe féminin de Brazzaville, les Mamans du Congo, avec la pièce « Consolation », qui est tirée de leur dernier album « Ya Misolé », qui est paru en octobre dernier, mais qui figure à la 19e position du palmarès international de Choc.
Ils chantent en quelle langue, Marie-Ève?
Je sais pas.
Tu sais pas, hein? Faudrait vérifier. En plusieurs, peut-être.
Peut-être. Mélanie Joly et Justin Trudeau ont beau lancer des appels larmoyants à un cessez-le-feu à Gaza, reste que, concrètement, les bottines suivent pas les babines, bien au contraire. Selon les données qu'Affaires mondiales Canada a fournies aux médias indépendants de Maple et qui a été repris par Pivot, dans les deux premiers mois de la guerre à Gaza, le Canada a octroyé de nouveaux permis d'exportation d'articles militaires vers Israël d'une valeur record d'au moins 28,5 millions de dollars. Ça, c'est dire que en deux mois, le Canada a dépassé la valeur totale des contrats de 2021 au complet, qui était de 26 millions de dollars et qui était déjà un record en 30 ans. Pire, alors qu'Affaires mondiales Canada a répété par le passé que toute l'aide militaire canadienne fournie à Israël depuis le 7 octobre est composée d'objets non létaux, une expression qui est d'ailleurs pas définie d'un point de vue juridique, les données obtenues par The Maple montrent que quatre de ces nouveaux permis-là, d'une valeur combinée de 1,7 million de dollars, permettent la vente de marchandises d'une catégorie d'exportation qui comprend, et je cite, « des bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et équipements et accessoires connexes spécialement conçus pour l'usage militaire ». Et tout aussi troublant, les licences semblent avoir été octroyées rapidement. L'une d'entre elles a été attribuée seulement 4 jours après que la demande a été reçue. Or, dans son rapport sur les exportations de marchandises militaires pour l'année 2022, Affaires mondiales Canada affirme que sa cible en matière de traitement des demandes de licences d'exportation vers des destinations à faible risque était de 10 jours et sa cible de traitement pour les autres destinations de 40 jours. Israël n'apparaît pas sur la liste des destinations faible risque. Les dates d'envoi des permis permettent aussi de constater qu'Affaires mondiales Canada a continué d'autoriser de nouvelles exportations de marchandises militaires au moins jusqu'au 6 décembre, au moment même où le rapporteur des Nations unies signalait le grave risque de génocide commis par Israël. Je rappelle finalement que le Canada a adhéré au traité sur le commerce des armes, en fonction duquel des amendements ont été apportés à la loi sur les licences d'exportation et d'importation en 2019. En vertu de cette loi-là, le ministre, et je cite, le ministre des Affaires étrangères doit rejeter les demandes de licences d'exportation et de courtage portant sur des biens et des technologies militaires s'il existe un risque sérieux que les articles portent atteinte à la paix et à la sécurité ou soient utilisés pour commettre ou faciliter des violations graves du droit international humanitaire et des droits de la personne ou des actes graves de violence fondés sur le sexe ou de violence contre les femmes et les enfants. Mmh. C'est assez clair.
C'est clair.
Bref, le Canada a littéralement le sang des Gazaouis sur les mains. Et toi, Mathieu, mon cher, Bangladesh-Cambodge, que s'y passe-t-il?
Cambodge et Myanmar, ma chère.
Ah mais, oui, c'est vrai.
Non, Bangladesh, c'était il y a quelques semaines, t'as raison. J'avais parlé des élections.
Excusez-moi.
Et l'industrie du textile. Cambodge, on n'en parle pas souvent parce que c'est une espèce de régime autoritaire très stable dans tous les sens du terme, entre guillemets. Mais Amnesty a sorti un rapport à la fin 2023 qui s'intitule « Les expulsions massives à Angkor bafouent le droit international ». Au cours du second semestre 2022, les autorités cambodgiennes ont commencé à expulser quelques 10 000 familles du vaste parc des temples situé dans la ville de Siem Reap, en évoquant la nécessité de protéger ce site millénaire contre des dégradations susceptibles de mettre en péril son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui.
Évidemment. Les recherches d'Amnesty qui s'appuient sur des entretiens avec plus de 100 personnes montrent que les habitants n'ont pas été suffisamment informés ni consultés avant d'être expulsés. Nombre d'entre eux ont subi des pressions, ont été menacés dans le but de les empêcher de contester des expulsions et la réinstallation dans des lieux dépourvus de logements, d'eau potable, d'installations sanitaires et d'accès à des moyens de subsistance. Le premier ministre de l'époque, Hun Sen, a prévenu que ceux qui ne déménageraient pas au moment voulu ne recevraient aucune indemnisation. Les Cambodgiens connaissent bien les pratiques violentes de leur gouvernement en matière d'expulsion forcée. Amnesty a recensé des menaces directes et subtiles adressées aux habitants pour les obliger à partir ou à intégrer le programme de réinstallation. Ils ont été mis en garde contre les coupures d'électricité, les inondations et même les arrestations s'ils refusaient. Les habitants qui se sont portés volontaires, entre guillemets, pour partir, se sont vus attribuer des lopins de terre vides, 20 mètres par 30 mètres, ont reçu 30 plaques de tôle, une bâche, un moustiquaire, un montant de quelques centaines de dollars et une carte des services sociaux s'ils acceptaient de partir. Avec ces matériaux, ils étaient censés construire des nouvelles maisons après avoir perdu les leurs. Tout un transfert, hein? Alors qu'elle est parfaitement au courant des expulsions et des conditions sur les sites de réinstallation, l'UNESCO n'a pas condamné publiquement ce qui se passe à Angkor et ne semble pas avoir mené d'enquête interne ou externe. Lorsqu'Amnesty a assuré que les expulsions étaient menées en son nom, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a répondu que les actions d'un État parti ne relevaient pas de sa responsabilité. Fait que, à suivre comme histoire, parce que c'est toujours en cours les expulsions. Et là, ce n'est plus une scène, c'est son fils qui a pris le pouvoir à des élections, entre guillemets, l'été dernier. Il s'appelle Hun Manet. Et c'est un militaire et c'est le fils du dictateur qui est là depuis les années 80, donc au Cambodge. Sinon, au Myanmar, Marie-Ève, attaque de groupes armés partout au pays, soldats qui se rendent par milliers, partisans de la junte militaire birmane mécontents qui cessent de l'exprimer. Trois ans après le coup d'État qui a plongé le Myanmar dans une guerre civile, le vent semble tourner en faveur des rebelles. Selon l'ONU, les deux tiers du Myanmar sont plongés dans une guerre civile brutale depuis quelques années.
Ouais.
Plus de 2,6 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. La junte militaire a perdu des territoires dans le nord, mais aussi dans l'ouest près de l'Inde. Elle ne contrôlerait plus qu'entre 50 et 60% du territoire.
Ouais.
Une alliance de groupes rebelles ethniques a lancé une opération coordonnée au mois d'octobre dernier, qui est assez efficace actuellement. Des unités des forces de défense populaire qui sont affiliés au gouvernement fantôme de l'ancien gouvernement combattent avec différentes guérillas partout dans le pays. La junte a toujours un soutien chinois et russe et la résistance ne reçoit toujours pas de matériel militaire de l'Occident ni de d'autres pays. La junte pourrait se maintenir au pouvoir parce qu'elle garde le contrôle assez fort de la Banque centrale et de l'économie, des ports et des aéroports et tout ça. Des institutions, évidemment, oui. Récemment, la junte a encore une fois prolongé de 6 mois l'état d'urgence et la loi martiale qui est imposée depuis 3 ans, depuis le coup d'État. Selon le haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, plus de 1600 civils auraient été tués en 2023, donc 300 de plus que 2022. Mmh. En 3 ans, près de 26 000 personnes ont été emprisonnées pour des raisons politiques, dont près de 20 000 qui sont toujours en détention, certaines faisant l'objet de tortures et sans espoir d'un procès équitable ou d'un procès quelconque. Le tiers du pays a besoin d'aide humanitaire, soit 18,6 millions de personnes, dont 6 millions d'enfants. L'Association des Nations d'Asie du Sud, l'ANAS, va envoyer de l'aide humanitaire au Myanmar pour la première fois depuis le coup d'État en 2021. Un représentant spécial de cette organisation, l'ANAS, a été désigné pour tenter de favoriser le dialogue entre militaires et rebelles, mais il n'y a rien qui bouge pour l'instant. Et en terminant, ben pour ce qui est des Rohingyas, depuis la mi-novembre, plus de 1000 membres de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie ont fui leur camp au Bangladesh où les conditions de vie sont misérables pour gagner la province d'Aceh par la mer. Il s'agit du plus important mouvement de migration des Rohingyas vers l'Indonésie depuis 2015 et ça continue à l'heure où on se parle. De nombreux habitants d'Aceh ont longtemps été sensibles au sort de cette minorité musulmane, mais certains montrent désormais de l'hostilité à leur égard, menaçant de les renvoyer à la mer. Récemment, des heurts ont opposé plus d'une centaine d'habitants et la police lors d'une manifestation réclamant le déplacement de réfugiés arrivés par bateau sur l'île de Sabang. Mmh. Le HCR a reconnu que les centres d'hébergement étaient en surcapacité, mais a déclaré que le gouvernement s'efforce de fournir des abris car le nombre de réfugiés est élevé. Mais on parle de tentes là, pour l'instant, là, depuis l'automne dernier. Et le président indonésien Joko Widodo a déclaré que son gouvernement soupçonnait un réseau de trafic d'êtres humains d'être à l'origine de cet afflux massif de réfugiés, ce qui n'est pas vrai selon tous les experts parce que beaucoup de Rohingyas, de personnes Rohingyas, fuient le Bangladesh parce que la vie est très, très difficile, justement à cause de trafiquants, entre autres d'ailleurs, de toutes sortes qui sont dans les camps. Donc, les Rohingyas, on n'a pas fini d'entendre parler. Puis en Birmanie, j'ai pas d'informations. J'ai essayé d'en trouver sur leur situation, mais avec la guerre, les affrontements, ça doit être encore plus l'enfer.
Mais je savais pas qu'il y en avait qui partaient vers les Philippines.
L'Indonésie,
oui, pardon.
Oui, c'est plus de 1000 kilomètres entre le Bangladesh et la province d'Aceh en Indonésie.
Oui, c'est
1000 kilomètres.
Ça.
Mais il y en a qui vont aux Philippines aussi, t'as raison. Mais c'est très loin. C'est des petits bateaux. C'est très artisanal. On en avait entendu parler un peu il y a peut-être 2-3 ans, pendant la pandémie. Ouais.
Ça a été longtemps, une junte militaire aussi
en Indonésie. Oui, mais il y a plusieurs îles. Mais c'est juste que c'est musulman aussi. Donc, il y a une certaine sympathie quand même aussi, ouais.
OK, ben merci Mathieu.
Ben,
on va aller écouter quelques notes de musique et on vous revient dans pas long. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les Apatrides Anonymes, votre power trio informationnel et analytique.
Oui, et critique.
Et avec un petit mordant ironique,
sarcastique, Marie-Ève.
On le sait, depuis, il y a plusieurs objets traditionnels ou culturels des peuples autochtones ont été pillés par les États coloniaux et se retrouvent aujourd'hui dans des musées où les Autochtones sont trop souvent vus comme des sujets d'étude et non pas comme des êtres humains à part entière. Aux États-Unis, depuis le 12 janvier, une nouvelle réglementation fédérale oblige les institutions à demander l'accord et la permission des communautés autochtones avant d'exposer tout artefact appartenant aux Premières Nations du pays. C'est une mise à jour importante d'une loi qui existe déjà depuis 1990, et qui vise à accélérer le rapatriement dans les communautés des objets sacrés, culturels ou funéraires ayant appartenu au premier peuple. Tous les musées et institutions aux États-Unis, universités et agences fédérales incluses qui reçoivent des fonds publics, vont devoir appliquer la loi au risque de recevoir des amendes et de perdre de toute subvention. Plusieurs musées ont entrepris ces dernières semaines des démarches pour se conformer à la nouvelle législation, ou en tout cas à la législation mise à jour, notamment le Cleveland Museum of Art, le musée Peabody d'archéologie et d'ethnologie de l'Université Harvard et le Field Museum de Chicago. Mais évidemment, d'autres ont été pris par surprise, comme le prestigieux Musée américain d'histoire naturelle de New York, qui a récemment fermé sans préavis deux de ses salles dédiées aux objets autochtones susceptibles d'être restitués aux Premières Nations. Selon les dernières données colligées en décembre par l'organisme américain ProPublica, qui est basé à New York, environ 180 musées qui doivent se conformer à la nouvelle loi ont signalé qu'ils n'avaient pas encore rapatrié les objets autochtones de leur collection aux Premières Nations concernées. Ces musées s'étaient pas non plus assurés du consentement des communautés pour d'éventuelles expositions. Donc, c'est vraiment une avancée importante. Si on regarde au Canada, il n'existe aucune loi fédérale équivalente à celle des États-Unis, bien que l'Assemblée des Premières Nations recommande là, depuis plusieurs années au gouvernement de légiférer en la matière. La question du rapatriement se négocie au cas par cas, ce qui peut compliquer les relations entre les musées et les communautés autochtones. Il y a eu une tentative parlementaire là, en 2019 visant à élaborer une stratégie nationale pour le rapatriement des artefacts et des restes autochtones, mais le projet de loi est mort au feuilleton. Alors, de ton côté...
On va continuer à travailler...
de concert...
Et à reconnaître que c'est important.
Voilà, c'est ça. J'imagine qu'en 2046, quelque chose devrait se passer, là. De ton côté, toi, Mathieu, tu nous parles de quoi?
Bien, différentes choses au niveau autochtone, les enjeux autochtones au Canada. Il y a tellement de choses qui se passent. En premier lieu, je voulais juste, dans la foulée du jugement de la Cour suprême sur la protection de la jeunesse, je voulais vous suggérer un article de Espace autochtone du 14 février de Radio-Canada qui s'appelle « Protection de l'enfance autochtone. Que retenir la décision de la Cour suprême? » Je vous en lis un petit paragraphe. « Si le jugement offre différentes pistes de travail pour les communautés autochtones en matière de services à l'enfance et apporte des gains importants, il est aussi perçu comme une occasion manquée, n'ayant pas tranché sur l'existence d'un droit constitutionnel à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, en général, dans l'ensemble des sujets. » Donc ça aurait été souhaité par les plusieurs communautés et juristes. Même s'il y a des avancées, parce que la déclaration des peuples autochtones des Nations Unies est intégrée dans le jugement, donc il y a des avancées quand même, mais c'est pas complet au niveau de la reconnaissance de l'autonomie.
Ben non, mais comme Simon nous parlait à la dernière émission, l'Australie et le Canada ont
travaillé fort
d'un coin pour que ça se passe pas.
Oui, exactement, il y a quelques années, donc il y a des relents de ça. Sinon, dans le même genre de sujet, au Québec, consulté au moment de l'élaboration du projet de loi, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et la société Makivik jugent que leurs recommandations ont été ignorées ou mal comprises. Il s'agit de quoi? Des organisations autochtones ont fait valoir la nécessité de nommer des commissaires indépendants représentant les Inuits et les Premières Nations dans le cadre du projet de loi 37 sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Le projet de loi 37 prévoit la nomination d'un commissaire associé affecté au bien-être et aux droits des enfants autochtones qui relèverait du commissaire principal. Ça, c'est dans la foulée, évidemment, de la commission Laurent. Je vous l'expliquais un petit peu. Pour les deux organisations, la description du poste de commissaire associé dans le projet de loi...
Comme un adjoint, dans le fond.
Exactement. Ne respecte pas l'esprit du rapport de la commission Laurent publié en 2021, à commencer par le fait qu'il n'est pas spécifié que la personne nommée doit être aussi issue des Premières Nations ou des Inuits. Mm. Elle met également en doute la légitimité ainsi que l'indépendance qu'aurait le commissaire associé et non pas principal. Dans le cadre de la nomination du commissaire, la simple consultation des Premières Nations, selon
c'est
le projet de loi,
suffisant.
Est insuffisante. Face à ces critiques, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, s'est montré ouvert à la poursuite du dialogue, mais a également soulevé qu'il serait difficile de s'assurer que chaque communauté puisse donner son point de vue pour avoir un commissaire qui les représente. Le projet de loi actuel prévoit aussi la création d'un comité de jeunes qui conseillera l'éventuel commissaire. Malgré une recommandation de la commission Laurent, le projet de loi 36 ne prévoit pas de groupe spécifique pour les jeunes autochtones. Donc, il y a eu des consultations, ça n'a pas été entendu. Et là, on a un projet de loi qui est tout croche, un peu comme celui sur la sécurisation culturelle, par exemple. Donc, la CAQ continue à s'amuser avec à fâcher tout le monde, hein, finalement. Ouais. Sinon, ben un sujet sérieux aussi. En Colombie-Britannique, trois défenseurs des terres, Slido Morley Wickham, de la nation Wet'suwet'en, Shailene Sampson de la nation Gitxsan et Corey Jaoussi Joko de la nation Odenosone ont été jugés pour des gestes qui auraient enfreint une injonction interlocutoire octroyée par la Cour suprême de la province à la compagnie Coastal GasLink. Le procès s'est déroulé au mois de janvier dernier. On n'a pas beaucoup entendu parler.
Non.
C'était déroulé à Smithers. Le juge a conclu que les preuves étaient suffisantes pour les juger les trois coupables d'avoir contrevenu à l'injonction en bloquant l'accès au tracé de l'oléoduc. Les procédures ne sont toutefois pas officiellement terminées car la peine n'a pas été déterminée, mais ils risquent des peines d'emprisonnement et des amendes. Mais avant ça, le juge doit évaluer une requête déposée il y a près d'un an par les trois accusés et leurs avocats. Cette requête allègue un abus de procédure dénonçant le recours disproportionné et excessif à la force par la GRC contre les défenseurs des terres lors de leur arrestation en novembre 2021. Les trois accusés font partie d'un grand nombre de personnes arrêtées durant deux raids assez violents contre les défenseurs de la terre et les alliés qui s'opposaient aux travaux du gazoduc. Ouais. La requête allègue que les personnes arrêtées ont été privées de leur droit à la sécurité, qu'elles ont été soumises à des fouilles, perquisitions et saisies abusives, qu'elles ont été détenues et emprisonnées arbitrairement et qu'elles se sont vues refuser une mise en liberté sous caution raisonnable sans motif valable. Elle rapporte également que des policiers auraient exprimé des commentaires racistes envers les personnes arrêtées, ce qu'on peut constater sur les enregistrements de l'arrestation, qu'on a vu aussi, nous aussi, dans les médias. Rappelons que les agents de la GRC qui sont intervenus en territoire Wet'suwet'en étaient équipés d'armes d'assaut et accompagnés d'unités canines. Un certain GISCI, groupe d'intervention spécialisé pour les collectivités et l'industrie de la GRC, qui n'avaient pas de négociateurs avec eux et qui ont pas ils ont foncé dans le tas, finalement, puis ont arrêté tout le monde à différentes occasions. Un récent rapport...
Ouais, c'est comme fonce dans le tas, puis pose des questions après.
C'est ça, avec les chiens puis des armes automatiques et hélicoptères et tout ce que tu veux. Un récent rapport d'Amnesty concluait que les défenseurs des terres Wet'suwet'en étaient victimes d'intimidation, de harcèlement et de surveillance illégale par la GRC et le service de sécurité privée de Coastal GasLink dans le cadre de l'injonction détenue par celle-ci depuis plusieurs années. Le rapport fait état de 4 opérations à grand déploiement de la GRC pour imposer l'injonction de la compagnie gazière entre 2019 et 2023. Un total de 75 personnes ont été arrêtées, une vingtaine ont été accusées, comme nos trois amis, d'outrage criminel.
Okay.
C'est ça qui... ils ont été reconnus coupables d'outrage criminel. Le procès reprendra en juin avec la requête spéciale qui dénonce les arrestations qui pourraient atténuer la peine ou jugement.
Ça
ne
changera pas la condamnation, ça peut venir atténuer la peine.
Exactement, c'est ça. Mais ça peut servir pour un appel à la Cour suprême aussi, éventuellement, du Canada.
Okay.
Mais c'est drôle parce qu'on a beaucoup entendu parler des Wet'suwet'en, puis là, il y en a trois qui se font accuser quand même, reconnaître coupable d'accusation quand même
assez
important.
Assez grave.
Outrage criminel, c'est ça, puis on n'entend pas beaucoup parler. Mmh. En terminant, Marie-Ève, si tu me permets. Toujours côté sécuritaire, mais un autre aspect. De nombreux leaders autochtones se sont réunis à Saskatoon la semaine passée pour réclamer davantage de financement afin d'assurer une meilleure sécurité dans leur communauté. Une demande qui fait suite à la conclusion de l'enquête du coroner sur les attaques du 4 septembre 2022. Est-ce que ça dit quelque chose?
Ouais.
Le 4 septembre 2022, Miles Anderson a poignardé 11 personnes à mort et en a blessé 17 autres dans la nation Cree James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan. Il s'agit de la pire attaque à l'arme blanche de l'histoire du Canada. La chaîne nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse-Nipinac, déplore notamment qu'il a fallu 22 minutes aux premiers agents de la GRC pour se rendre dans la nation le matin du drame. Un laps de temps qui serait inacceptable, c'était pour une communauté non autochtone et urbaine, a-t-elle soutenu. La chef ajoute que si un service policier au sein de la même nation Cree James Smith avait été financé, la tragédie aurait pu être évitée. Le mode de financement actuel est dépassé et insuffisant pour répondre aux besoins sécuritaires des communautés, affirme-t-elle. Mais ça, c'est un débat depuis plusieurs années dans différentes provinces sur la notion de corps policier autochtone et la notion aussi de proximité des services, là.
Ouais.
Donc, on s'en sort pas. Fait que ça, je voulais juste le souligner parce que au Canada, dans l'Ouest, ça a été une grosse affaire, là, le massacre.
Une petite communauté.
Une petite réserve, ouais, James Pitt. Donc, voilà. Fait qu'il y a eu des suites à ça, puis il va y avoir d'autres demandes qui vont s'en suivre.
Parfait, parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, on va retourner en musique avec la formation Chalk et la pièce The Gate. Je vous en parle un peu plus au retour.
Yeah.
On écoutait le trio punk industriel Chuck de Belfast au Royaume-Uni et leur pièce The Gate. Il s'agit d'un single qui est sorti à la fin novembre et qui va se retrouver sur leur prochain album intitulé Conditions 2, apparaître le 1er mars. Avant de retrouver Simon avec les actualités nationales et provinciales en immigration, un petit détour du côté de notre extrême droite pure laine. Le fondateur du Parti nationaliste du Canada, Travis Patron, a été condamné à 200 jours de prison pour harcèlement criminel.
On entend parler de lui. Je connaissais même pas le parti.
Parlez-en mal, parlez-en bien, c'est mais parlez-en. Il était accusé d'avoir harcelé un homme et sa compagne dans un centre commercial de Saskatoon en juillet dernier. Le jour de l'incident, Travis Patron a confronté les deux personnes avant de commencer à poser des questions sur leur culture et leurs antécédents. Puis il a demandé à l'homme pourquoi il se trouvait avec une Canadienne alors qu'il n'était pas né au Canada. Ce qu'il savait pas, c'est que l'homme en question était un membre de la Gendarmerie royale du Canada qui n'était pas en service à ce moment-là. Oups! Lors de sa comparution, Travis Patron, qui se représente lui-même dans cette affaire, a déclaré qu'il comprend pas pourquoi il a été accusé de harcèlement. Il a soutenu qu'il a posé ses gestes par devoir, en plus de citer plusieurs passages de la Bible pour construire son argumentaire. Le juge a également condamné notre jambon illuminé à 30 jours d'incarcération pour avoir brisé les conditions de sa libération liées à une autre condamnation qu'il avait reçue en octobre dernier. À l'époque, Travis Patron avait été aussi déclaré coupable par un jury d'avoir tenu des propos haineux à l'encontre de la communauté juive. Alors, je termine avec une citation du juge qui a dit ceci en rendant son jugement. La réadaptation n'est pas une chose à considérer dans ce cas, malheureusement, considérant que Travis Patron maintient son idéologie raciste.
Ben non, il faisait son devoir.
Édifiant.
Eh oui. Donc moi, je vais vous parler de, je sais pas si ça va être aussi drôle, mais de service public et peut-être aussi drôle de chicanes entre différentes parties provinciales, entre le fédéral, le provincial.
Qui se renvoie la balle, oui.
Ben, qui se la lance d'en face, si on peut dire. Donc, d'abord, dans les services publics, en 2023, au moins 900 migrantes ont accouché dans des hôpitaux québécois sans assurance maladie, évidemment. Si tu comprends bien, on offrirait gratuitement à toutes les femmes, peu importe leur statut, les suivis médicaux de grossesse, donc avant l'accouchement. Par contre, une fois physiquement à l'hôpital pour l'accouchement en tant que tel et le temps qu'il va y être passé à l'hôpital par la suite, la facture peut monter jusqu'à 21 000 $, montant qui inclut une surcharge de 200 % pour, selon le ministère de la Santé que je vais citer, compenser les coûts de la composante immobilière non comprise dans le prix de la journée. Aucune idée ce que ça veut dire, mais ça vient quand même considérablement augmenter la facture finale. Selon Médecins du Monde, qui sont pas mal mes amis aujourd'hui, là, qui militent, Médecins du Monde qui militent pour des accouchements gratuits pour toutes les femmes, demander de payer des frais, surtout aussi élevés que ceux-là, c'est pas normal dans un pays riche comme le Canada. Et c'est même dangereux, ça éloigne des soins de santé officiels, ça appauvrit financièrement, ça a des conséquences sur la santé physique et mentale de toute la famille, surtout de la femme. Sachant que le Québec se tourne de plus en plus vers une immigration temporaire, que ce soit les étudiants ou les travailleurs qui ont peu ou pas du tout de couverture médicale ou quelques miettes du programme fédéral intérimaire pour lesquels ils doivent généralement se battre, disons qu'on a hâte que le provincial bouge et on n'a aucune idée quand il entend prendre une décision. La RAMQ a préparé des scénarios pour couvrir en tout ou en partie les frais liés au suivi de grossesse, à l'accouchement, aux soins postpartum, aux médicaments. Mais pour que ça passe, il faudrait dépolitiser le dossier et casser tous les mythes entourant le tourisme obstétrique, mythes qui ont la couenne dure dans certains milieux, mais qui sont vraiment un mythe. Le provincial entend prendre une décision, je cite le provincial, bientôt. Toujours dans les services publics, la Cour d'appel du Québec a asséné une torgnole au gouvernement Legault en rendant une décision importante il y a deux semaines. Les demandeurs d'asile ont le droit d'envoyer leurs enfants dans les centres de la petite enfance et dans les garderies subventionnées. Et c'est discriminatoire et même sexiste de l'interdire, comme on le faisait depuis que Couillard l'avait décidé en 2018. Ouais. Décision maintenue depuis par tous les gouvernements, invalidée une première fois en 2022 par la Cour supérieure, puis portée en appel par François Legault. Appel donc rejeté il y a deux semaines. Mais Legault n'en démord pas. Selon lui, contrairement aux autres femmes, les demandeuses d'asile n'ont pas droit au service de garde et doivent rester à la maison, puisqu'on apprenait hier qu'il portait l'appel en appel pour soumettre la question à la Cour suprême qui décidera dans les prochaines semaines si elle va entendre ou non la cause. Elle pourrait dire non aussi. Je n'entends pas. La décision est finale. Il n'y a aucun vice de procédure. Arrangez-vous avec ça.
On va se croiser les doigts pour que ce soit ça qui arrive, parce que là, ça devient proprement ridicule. Là,
connaissant les juges qui sont actuellement à la Cour suprême, en tout cas, on ne sait pas. Moi, j'aurais pensé que la pénurie de main-d'œuvre aurait eu raison du nationalisme ambiant à Québec, sachant que libérer les femmes de plusieurs heures par jour leur permet, si le fédéral peut débloquer les permis de travail, de travailler ou de suivre une formation ou d'aller en francisation. Mm-hmm. D'ailleurs, en passant, les CPE sont un puissant outil de francisation et d'intégration pour les enfants issus de l'immigration. Peut-être qu'ils auraient pu penser à ça aussi. Bref, on va dépenser des millions de notre argent contre les femmes les plus vulnérables de la société, tout ça pour faire plaisir à une base électorale qui glisse vers un parti encore plus xénophobe que Marie-Ève, je te laisse nommer. Le PQ!
Ah!
Donc,
pardon. Non, c'est moi.
Bon, ben Mathieu, tu peux créer...
Le PQ!
On n'a pas Saint-Pierre à la régie. Pas Saint-Pierre. Donc, pendant que les partis provinciaux à Québec se crêpent le chignon dans une guerre de chiffres et de cibles basées sur aucune étude, même Québec solidaire s'est lancé dans la mêlée il n'y a pas longtemps, on va aller faire un petit tour à Ottawa où les trois partis d'opposition ont réussi à faire adopter une motion forçant la tenue d'une rencontre entre premiers ministres, donc entre Trudeau et les premiers ministres provinciaux, ce qui va obliger, je ne sais pas si c'est contraignant, le fédéral à réévaluer ses objectifs en fonction des demandes des provinces. La motion exige un nouveau plan d'ici 100 jours pour réviser les cibles en immigration des trois prochaines années, cibles qui avaient été annoncées en novembre et qui prévoyaient 485 nouveaux résidents permanents en 2024 et 500 000 en 2025, même chose en 2026. La motion demande aussi que les ressources nécessaires soient envoyées aux provinces pour pouvoir fournir les services aux nouveaux arrivants. Là, d'ailleurs, Québec a récemment révisé sa position là-dessus et demande maintenant non plus 470 millions, mais 1 milliard au fédéral pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les trois dernières années. Mais comme toujours, ces tractations politiques ne prennent pas en compte l'immigration temporaire j'espère, de plus en plus au cœur de l'actualité. Mais pour l'instant, on a toujours le doigt bien profond dans l'œil.
Ou le nez.
Petit effet. Ah, le nez, j'y avais pas pensé. Un orifice de votre choix.
Mathieu, il avait une idée, lui.
Oui, vas-y, Mathieu.
Non, j'oserais pas le dire.
Donc, pour y voir plus clair dans tout ça, suggestion de lecture, un article de Una Barrett dans Pivot.Québec. Le titre est « Immigration, bouc émissaire de la crise du logement », qui remet les points sur les « i ». J'écris sur le « i », mais on va dire les « i », et qui affirme en gros, lisez l'article pour les détails, mais que oui, c'est sûr qu'un accroissement de la population ajoute une pression supplémentaire sur le logement, c'est évident. Mais la crise actuelle, c'est pas tant le manque de logement en soi, mais l'inabordabilité, l'inaccessibilité du marché actuel, résultat d'au moins 20 ans de désinvestissement dans le logement social, de libéralisation du marché privé, les conversions en condos ou en unifamilial, les flips, les évictions, les locations touristiques, les Airbnb, ce sont les locations touristiques ou hosts, whatever, les RPA démantelés, très très facile de démanteler un RPA, les augmentations abusives, les promoteurs qui construisent juste des micro-unités ultra chères qui créent une surchauffe dans le marché immobilier qui répondent à aucun besoin concret, ce qui fait exploser les taxes foncières. Toutes des affaires prévisibles qu'on voit à Toronto et à Vancouver depuis fort longtemps, modèle qu'on aurait dû éviter, mais qu'on a choisi de suivre. Donc, crise du logement qu'on peut qualifier de programmée, mais il s'en trouve quand même pour dire que, comme tous nos problèmes de société, c'est la faute à l'immigration. Un peu simpliste comme raisonnement ou stupide, est-ce que j'ai dit?
Ou populiste, parce que ça a l'air que ça marche.
Ça marche, mais il y en a qui l'emploient, mais leur base glisse quand même vers le
PQ.
Le PQ, bravo Marie-Ève, tu l'as dit. Donc voilà pour les actualités immigration Québec-Canada.
Merci Simon, ouais, Mathieu, tu voulais ajouter quelque
chose? Dans le même ordre d'idée, parler de la CAQ, il y a quand même quatre ministres cette semaine qui ont fait une conférence de presse conjointe dire à quel point Ottawa qui répond pas aux besoins du Québec, qui ne veut pas rembourser le milliard comme tu parlais, puis à quel point l'arrivée de demandeurs d'asile est en train de changer la société, changer notre façon de vivre. C'est Jean-François Roberge, particulièrement ministre de la francisation, là. C'est des propos quand même xénophobes, là, tu sais, ça a été relevé quand même.
C'est le discours du grand remplacement de Zemmour et compagnie en France.
Puis ça rejoint ce que Legault disait, c'est comme ça qu'on vit ici au Québec et pas autrement, là. Puis c'est toute espèce d'idéologie de populiste, nationaliste, identitaire, là. Mm. Mais c'était quand même quelque chose, les quatre ministres cette semaine, logement, etc., là, tout de l'unisson, juste avant en plus qu'il porte le jugement en appel par rapport au CPE. Faut le faire. Là.
Point de rupture. Ça aussi, on l'a entendu beaucoup. Là.
Point de bascule. Ouais.
Bon, mais sur ce, on va aller t'approcher des casseroles. Hein?
OK.
Simon a mentionné le mois de l'histoire des Noirs lors de la dernière émission.
J'avais pas fait de suggestion, par contre.
Non, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je vous propose une sélection d'événements parmi la foisonnante programmation. Alors, ce samedi 24 février, la Clinique juridique de Saint-Michel, qui a pour mission de rendre justice aux victimes de profilage racial, organise un spectacle bénéfice d'humour pour sensibiliser au profilage racial, mais aussi pour récolter des fonds. Donc, c'est intitulé « Profil comique ». Le spectacle présente sur scène 5 humoristes. Eric Preach, Eddie King, Doua Kachache, Gary Hanna Jean-Louis et Richardson Zephyr. Ça devrait être une belle soirée. C'est ce samedi 24 février à 19h30 à l'Olympia de Montréal, au 1004 Sainte-Catherine-Est, soit le métro Baudry ou... Berry-UQAM. La soirée est ouverte à tous les âges. Les billets sont quand même chers, 55 $, mais bon, c'est pour une levée de fonds pour la clinique juridique de Saint-Michel. Toujours le 24 février, dans le cadre de l'exposition « Entre le passé et le présent », qui met en lumière l'histoire et l'identité des personnes autochtones, noires et chinoises qui ont été invisibilisées dans le récit du passé de la métropole, le même Centre des mémoires montréalaises propose de se plonger dans les archives de la bibliothèque Vanier de l'Université Concordia en compagnie d'archivistes qui vont fouiller dans leur collection pour sortir des photos relatives à l'histoire des Noirs de Montréal. Fait que ça va être de façon très ludique aussi, là. Les gens vont pouvoir manipuler les photos et tout ça. C'est de 14h à 16h et c'est gratuit. Et l'exposition entre le passé et le présent, elle, se poursuit jusqu'au 8 avril, ça a commencé avant hier, je pense. Et les tarifs pour l'expo comme tel, c'est entre 7 et 16 $, là, dépendamment de votre âge ou de votre... le même est situé au 1210 boulevard Saint-Laurent, au métro Saint-Laurent. Ensuite, le mardi 27 février, pardon, à 19h30, trois artistes multidisciplinaires présentent une conférence en ligne intitulée « Parcours de femmes noires inspirantes » où vous pourrez découvrir les créations marquantes réalisées par une quinzaine d'artistes représentant les femmes afrodescendantes, qu'elles soient connues ou pas, dans toute leur diversité. Les trois artistes vont également aborder des thématiques là, comme la résilience et l'afrofuturisme, qui, moi, est quelque chose qui pique ma curiosité, donc...
J'ai le goût de prendre une fusée vers l'afrofuturisme.
Le lien pour vous connecter pour cette soirée-là, le 27 février, 19h30, se trouve dans la page de l'événement sur le site du mois de l'histoire des Noirs, donc parcours de femmes noires inspirantes. Le 29 février, l'ALQ, qui est l'Association des libraires du Québec, et le liseur public vont unir leurs voix pour mettre de l'avant des extraits de livres sélectionnés par Gabriella Garbeau, qui est libraire à la librairie Racine. Le tout va se dérouler sous la forme d'un parcours dans deux librairies indépendantes montréalaises et sur la Plaza Saint-Hubert. Des lectures spontanées vont y être présentées aux passants-passantes en compagnie de deux invités spéciales pour l'occasion, Laurie Jean-Louis et Joujou Turenne. Donc, le programme va comme suit. À 17h30, ben, il y a la lecture publique à la librairie La Maison des Feuilles, qui est sur Bélanger. Ensuite, à 18h, il y a le début de la brigade littéraire du liseur public sur la rue Bélanger et sur la Plaza Saint-Hubert. Puis, à 18h45, pardon, ben là, il va y avoir clôture et lecture publique qui vont se terminer à la librairie Racine, qui est sur la Plaza Saint-Hubert également. Je termine avec une projection de film. J'ai essayé d'être diversifié là, dans mes...
Bravo.
Dans mes suggestions. Projection de film, donc toujours le 29 février. Là, c'est à la Maison de la culture Marie-Huguet, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Il s'agit du documentaire « Cher Jackie » de Henri Pardo. Prenant pour prétexte le court séjour à Montréal de la légende du baseball, Mathieu, tu vas être content, Jackie Robinson. Cher Jackie raconte l'histoire de citoyen, citoyenne ordinaire de la petite Bourgogne, la première communauté noire de Montréal, connue dans toute l'Amérique du Nord comme le Harlem du Nord. C'est présenté en anglais et en français avec sous-titres. C'est donc le 29 février à 19h30 à la Maison de la Culture Marie-Huguet au 6052 Boulevard Manque. C'est au métro Manque. Évidemment, vous devez vous procurer des laissez-passer gratuits pour la représentation. Et ben voilà, c'est ce qui clôt mon calendrier antiraciste. C'est déjà la fin des Apatrides Anonymes. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes FM du 107.9 de Radio Victoria, deux fois par semaine, coast to coast. Vous pouvez aussi le faire en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Écrivez-nous à apatridesanonymes@commercialresist.ca et suivez-nous sur notre page
FB.
Voilà.
Avec des articles européens surtout. Et, et des enjeux militants, des trucs indépendants.
Merci Mathieu et Simon, vous qui êtes toujours aussi allumés. On s'est fait quelques passes sur la palette.
Oui, et non pas dans les patins.
C'est toujours bien. Ou dans le nez. Merci Marie-Ève.
Merci Marie-Ève pour l'animation et le contenu.
Les choix musicaux très bons. J'ai hâte d'entendre la dernière toune aussi.
Oui, la dernière toune, justement, c'est avec. On va entendre le quatuor de jazz montréalais Bell Bird, qui a sorti son premier album cet été intitulé Root in Tandem et qui a été enregistré sur le bord d'un lac à Saint-Zénon, dans la Naudière. Oh. Avec les petits flocons qui tombent et tout. Oh. Bell Bird est formé d'Alison Burick au saxophone alto, de Claire Devlin au saxophone ténor, d'Eli Davidovici à la basse et de Millie Hung à la batterie. Et donc, on va écouter la pièce Pigeons and Disco de la formation Bell Bird. Et sur ce, on va vous souhaiter bonne écoute, bonne soirée et... À dans deux semaines.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée. Mm-hmm.